Bonjour à tous, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Encore une nouvelle semaine à parler de sujets toujours plus passionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui n'est pas évident. J'ai hésité un petit peu avant de l'aborder parce que j'avais peur de ne pas avoir les mots justes pour parler de ça. Et puis, en prenant du recul, comme à chaque fois, je trouve que c'est important d'évoquer ces sujets-là parce que ça peut parfois ouvrir les yeux à certaines personnes qui se voilent un peu la face et peut-être pointer du doigt des choses et des comportements que l'on pourrait changer éventuellement si on en a le désir et surtout les ressources. Aujourd'hui, on va attaquer un gros sujet qui concerne du coup les addictions. Alors les addictions, y en a plein. Elles se présentent d'ailleurs sous différentes formes, différentes manières. Quand on parle d'addiction, on pense tout de suite à la drogue, la cigarette, à l'alcool aussi, par exemple. On pense vraiment toujours au même type d'addiction qui sont extrêmement péjoratives et qui sont finalement très décriées par la société et mises en avant à chaque fois que l'on parle d'addiction. Sauf que on n'a pas vraiment conscience des autres addictions qui existent et qui sont un petit peu cachées dans notre quotidien. Pourtant, elles sont vraiment là. Aujourd'hui, je voulais justement aborder ces sujets-là dans cet épisode parce que j'ai moi-même souffert d'addiction. Je souffre encore aujourd'hui d'addiction, hein, mais comme tout le monde, sachez-le. Alors après, bien sûr, c'est à des degrés différents en fonction des personnes. Dès lors que l'on détermine une addiction que l'on pourrait probablement avoir, on a déjà la moitié de la clé pour s'en débarrasser. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve hyper intéressant parce que vous allez voir que tout le monde n'est pas forcément sujet aux mêmes addictions. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas addict. Donc, j'espère que vous êtes bien accrochés. Plongeons dans le monde des addictions. On dit comme ça, c'est un peu bizarre. Déjà, on va commencer par le commencement. J'adore vous donner des petites définitions parce que je trouve que ça plante le décor. La définition de l'addiction donnée par le gouvernement, c'est que d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Donc évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on pense tout de suite à des addictions classiques du style la nicotine, l'alcool, toutes sortes de drogues. Mais il y a évidemment d'autres addictions un peu plus, on va dire, vicieuses et cachées. Donc une addiction au jeu d'argent, une addiction aussi parfois à des comportements et à des gens. Vous savez, quand on parle d'abus, une dépendance en fait affective ou une dépendance à quelqu'un, ça, c'est aussi considéré comme une addiction. Donc ça vous donne déjà le ton pour cet épisode, comme quoi on n'est pas toujours addict à ce que l'on croit être, mais on peut aussi être addict à une personne et ça se joue sous la forme d'une dépendance affective, par exemple. Donc voilà pour la définition de ce que c'est qu'une addiction. C'est vraiment une habitude qui y est ancrée dans votre quotidien, de laquelle vous ne pouvez pas vous passer et qui a une influence néfaste sur votre vie. C'est important de noter aussi, comme beaucoup de sujets, que les addictions, en fait, ne se développent pas toujours chez tout le monde. En fait, on s'est rendu compte avec les années qu'il existe des profils un petit peu plus fragiles que d'autres qui seraient susceptibles de développer une dépendance. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on voit surtout les addictions se manifester, mais notamment au niveau des adolescents, parce qu'on est vulnérable, en pleine construction, et c'est souvent à ce moment-là qu'on commence à faire des mauvais choix et qu'on développe des addictions. Par exemple, moi je sais que je prends souvent cet exemple-là, et c'est pour ça aussi que je vous fais cet épisode. J'ai donc été addict à la clope pendant presque 8 ans de ma vie. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent maintenant parce que c'est pas quelque chose que j'ai souhaité continuer à cacher, et j'ai voulu le partager parce que toute expérience est bonne à prendre et à témoigner. Quand j'étais ado, j'ai commencé à fumer pour une raison débile, hein, comme beaucoup d'ado malheureusement, parce que je voulais être cool, j'avais l'impression que ça allait m'aider à m'inclure dans mon école et dans mon groupe d'amis, et je me sentais un petit peu exclue du fait de ne pas fumer. Donc j'ai commencé vraiment à cause d'une espèce de pression sociale, parce que je me disais que comme ça je me ferais plus d'amis. Spoiler alerte, évidemment c'est faux. Et puis en fait, avec le temps, à force d'habitude, c'est clairement devenu une addiction, puisque ça s'est ancré dans mon quotidien. Je suis passée de quelques cigarettes par semaine à une cigarette tous les matins, tous les midis, tous les soirs, à ensuite commencer à fumer en dehors de l'école, donc Alors quand je dis en dehors de l'école, je fumais pas en cours, mais par exemple, je fumais le matin avant d'aller en cours, je fumais sur la pause de midi, je fumais sur la pause de 16h et je fumais 2-3 clopes le soir en buvant un café avec mes potes à la fin des cours, par exemple. Donc ça, c'était un petit peu mon truc. Après, bien sûr, il y avait les clopes en soirée. Je fumais pas chez mes parents parce que j'avais trop peur qu'ils me voient, mais après, j'ai commencé évidemment à fumer. Seule, en attendant mes potes à un arrêt de bus ou à un arrêt de métro. Quand j'ai quitté l'école, ben je fumais toute seule sur mon balcon avant de commencer à filmer une vidéo, par exemple. C'est vraiment là que j'ai commencé à prendre conscience de mon addiction, que c'était pas simplement la clope sociale et en soirée, qui était souvent d'ailleurs liée à une consommation d'alcool, mais en fait que c'était réellement devenu une habitude de laquelle je ne pouvais pas me passer. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mon addiction à la cigarette. Il m'a fallu du temps pour réaliser que réellement j'étais accro, et il m'a fallu tout autant de temps pour arrêter parce que c'était très difficile pour moi, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai commencé à fumer et ça a été, je dirais, ma première vraie addiction. À l'école, quand j'étais adolescente, et on a beau dire ouais, pour pas fumer, faut juste jamais commencer. En fait, évidemment, ça dépend de comment est-ce qu'on est, dans quel état psychologique on se trouve au moment où l'addiction se présente à nous. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait des profils plus à risque, en fait, de développer une addiction comme les ados, mais il y a aussi évidemment des gens qui sont de base dans une souffrance psychologique et dans une détresse psychologique, des gens par exemple qui sont assez renfermés, des gens au contraire qui sont extrêmement extravertis, des gens qui ont aussi des troubles, par exemple qui ont de l'hyperactivité, qui sont hypersensibles, tous ces troubles psychologiques que l'on connaît peuvent en fait être des facteurs qui sont en fait des bases assez fertiles pour développer une addiction. Si vous ne présentez aucun de ces facteurs-là et que tout va bien pour vous, j'ai envie de dire déjà tant mieux, normalement, vous ne devriez pas développer d'addiction. Or, on le sait aujourd'hui, la santé mentale, c'est un sujet primordial, simplement parce que tout le monde a besoin de consulter un ou une psy. J'en ai parlé dans mon épisode sur la thérapie que je vous recommande d'écouter si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours à ce sujet parce que j'en ai reçu des milliers et ça m'a beaucoup touchée, donc merci. Mais tout ça pour dire que la problématique, c'est que l'addiction, elle est finalement très facile à développer parce qu'elle se développe dès lors que l'on présente une certaine fébrilité sur un sujet. Mais aussi, par exemple, si vous êtes souffrant et que vous êtes sous un traitement médical parce que vous êtes en souffrance physique pour une maladie chronique ou une maladie tout autre d'ailleurs, bien sûr, on peut développer une addiction aux médicaments, aux antidouleurs. C'est aussi un profil que l'on retrouve notamment chez les personnes dépressives. Et forcément, les addictions dans ce genre de pathologie-là prennent une place encore plus importante parce que, en fait, ça vient se greffer sur des fragilités que l'on a déjà de base. C'est important de le savoir parce que ça veut dire en fait que comme on a tous des fragilités à certains moments de nos vies, qu'on ait une pathologie ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs, on a tous des moments dans la vie où on est plus vulnérable parce que les épreuves de la vie nous mettent à rude épreuve, parce qu'on passe par un moment difficile, parce que voilà, il y a toujours plein de raisons. Mais c'est important d'être extra vigilant dans ce genre de situation parce que c'est à ce moment-là que les addictions vont pouvoir venir se greffer. En fait, pendant mes recherches, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Je ne savais pas, par exemple, que la génétique pouvait avoir un impact sur nos addictions. En gros, certaines études ont démontré que, en fonction des gènes que l'on portait, on avait plus ou moins de chances d'avoir une addiction, dans le sens où chaque personne ne réagit pas de la même manière aux drogues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, génétiquement parlant, ne vont pas avoir de réponse positive ou même négative aux drogues. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont consommer une drogue et il ne va rien se passer dans leur cerveau, tout simplement parce que leurs gènes ne comprennent pas l'information et ne réagissent pas comme ils devraient réagir. Donc par exemple, si vous avez un perturbateur sur votre système, vous savez, de récompense, ou alors sur votre système qui a trait à l'humeur, etc., etc., en fait, tout simplement, vous n'allez pas nécessairement créer d'addiction puisque vous n'aurez pas cette dopamine que peut provoquer certaines drogues ou certaines addictions. Et donc, en fait, chez vous, ça ne va rien faire. Donc, en fait, déjà, sans même le savoir, génétiquement, on porte ou on ne porte pas, on va dire, le gène de l'addiction en fonction de notre code ADN. Donc, il y a des gens qui, au-delà de l'aspect sociétal et éducationnels, ont déjà une prédisposition génétique en plus. Ça peut aussi vous permettre d'un côté de vous déculpabiliser en vous disant que c'est déjà quelque chose que vous portez en vous et ça, vous ne pouvez rien y faire, malheureusement. Alors, ça veut pas dire que c'est bien, hein, ça veut pas dire que vous devez continuer à avoir cette addiction et que tant pis, puisque j'ai ce gène, je ne peux rien faire. Non, absolument pas. Effectivement, c'est un handicap supplémentaire et ça, vous n'y pouvez rien, malheureusement, mais c'est important, je trouve, de le souligner. C'est une prédisposition génétique qui existe et qui peut vous créer ces addictions. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des causes qui peuvent justement vous rendre addict à quelque chose, mais il y en a deux, trois que je n'ai pas encore évoquées. On n'a pas encore parlé du fait que, globalement, les gens qui sont dans des addictions ont en fait un mal-être assez profond, sans forcément parler de troubles, mais sont des personnes qui souvent se dévalorisent, n'ont pas vraiment une bonne estime d'eux-mêmes, de pas avoir sa place dans la société, de se sentir un peu exclu des autres, d'être assez anxieux, un peu dépressif. Mais vous avez aussi tout ce qui va être les traumas, les moments dans la vie où il va se passer quelque chose qui va vous traumatiser. Mais je voulais absolument vous faire tout un petit laïus sur qu'est-ce qui peut causer les addictions, parce que je crois profondément que quand on est addict à quelque chose, on se sent très coupable en fait. On a vraiment cet aspect de culpabilité qui vient à nous. Là, depuis tout à l'heure, on a parlé de la cigarette, mais par exemple, si vous avez des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et que en fait, votre addiction, c'est le fait de manger, parce que ça aussi, c'est une addiction. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'empêcher de manger un kilo de bonbons le soir? Pourquoi est-ce que j'arrive pas en fait à pas manger McDo toutes les semaines? Enfin, c'est ce moment où on se jette beaucoup la pierre, alors que justement, je pense que pour passer au-dessus des addictions, il faut avoir un petit peu de bienveillance envers nous-mêmes et vraiment essayer de trouver la cause de pourquoi est-ce qu'on a ces addictions. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, comment savoir aussi réellement si on est addict? Parce qu'il y a ça aussi, c'est « Ouais, non, t'inquiète, moi je suis pas du tout addict à l'alcool, je bois un verre tous les jours, mais je suis pas, c'est pas une addiction. » Ah, alors on va en parler. Déjà, comment est-ce qu'on sait si on est addict? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le fait de se dire qu'on boit un verre par jour, c'est une addiction ou pas? Est-ce que fumer une clope par jour, c'est une addiction? Est-ce que aller à la salle de sport tous les jours, c'est une addiction? Enfin, voilà, on pourrait trouver plein de patterns différents. En fait, il n'y a pas que ça. Il faut regarder au-delà de la récurrence. En fait, l'addiction, elle se caractérise par plusieurs choses et notamment, en fait, une vraie incapacité à arrêter ou à diminuer l'addiction que vous avez. Si vous n'arrivez pas, en fait, à diminuer, par exemple, votre consommation d'alcool ou à l'arrêter complètement, ça peut être un des facteurs d'addiction. C'est le moment où vous allez vous dire « Ah ouais, en fait, là, je n'y arrive pas. Là, en fait, demain, je me vois pas arrêter de jouer aux jeux vidéo tous les jours ou j'arriverai pas à jouer une fois tous les trois jours. » Là, c'est que vous pouvez commencer à vous dire qu'une petite addiction est déjà bien installée. Un deuxième facteur qui est aussi assez important, c'est le moment où vous avez ce côté complètement compulsif. Vous voyez, le moment où, en fait, c'est au-delà de vous, même si vous avez autre chose à faire dans votre journée, votre attention va être détournée par cette addiction. Vous devez répondre à quelques mails, mais en fait, non, vous n'allez pas répondre à ces mails. À la place, vous allez aller fumer une clope. Mais c'est ce côté où vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Alors, la première pensée qu'on a le matin est souvent tournée vers notre addiction. Je vous en donne une, par exemple, pour moi. Je sais que vous adorez quand je donne des exemples. Je suis addict à mon téléphone. J'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. Mais la première pensée que j'ai le matin, c'est d'allumer mon téléphone. Qui m'a envoyé un message? Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'avec mon boulot, tout se passe bien? Je regarde mes mails? Voilà, ça, c'est une vraie addiction. Quand je m'ennuie, et ça, du coup, c'est le troisième facteur que je voulais vous donner, quand vous vous ennuyez, qu'est-ce que vous faites? Le premier truc que vous avez envie de faire quand vous vous ennuyez? Eh bien, souvent, c'est aussi ça, une addiction. C'est vers quoi vous allez vous tourner quand vous vous ennuyez. Et ben moi, quand je m'ennuie, je prends mon téléphone et j'ouvre Instagram, même si je n'ai rien à faire dessus. Je vais l'ouvrir frénétiquement, juste par habitude. Et ben ça, c'est une addiction. Il y a aussi un autre facteur, c'est l'aspect « j'en ai jamais assez ». C'est le fait que vous allez commencer à vous habituer à votre addiction. Et comme vous allez vous habituer, vous allez le faire de plus en plus parce que vous ne serez jamais rassasié. Pour prendre l'exemple de l'alcool, d'abord vous allez boire un verre, puis deux. Et puis la bouteille, ah oui, parce que en fait, à un moment donné, l'addiction, elle ne se contente pas seulement de ce que vous lui donnez, mais elle va toujours chercher à avoir plus parce que vous allez être dans la recherche de la dopamine. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça qui est hyper vicieux, c'est qu'en fait, l'addiction profondément, c'est quelque chose que vous allez faire quotidiennement ou de manière très fréquente parce qu'elle vous apporte de la joie. Elle fait fonctionner votre système de récompense du cerveau et elle va vous générer, vous libérer l'hormone du bonheur, voilà, de la joie instantanée, donc la dopamine. Et donc, à un moment donné, vous savez, il y a une espèce d'accoutumance, hein, forcément. C'est pas parce que tu fais un truc une fois que ça va le faire à chaque fois et que pour avoir cette dopamine, au bout d'un moment, le cerveau, il va en demander plus. Donc, le quatrième facteur d'addiction, qui est pour moi assez, assez flagrant, c'est le fait que c'est jamais assez. À ce stade du podcast, vous pouvez déjà prendre une petite pause, comme vous savez, j'aime bien vous inciter à le faire. Prendre un petit peu de recul et maintenant que vous avez ces clés, essayez de vous poser et de vous poser la question « Quelles sont mes addictions ?» Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être évident et que vous allez vous dire « Bah oui, là, clairement, oui, moi, je suis addict à ça, je suis addict à ça, il y a ça. » Il y a des gens aussi, des fois, qui ont honte de leurs addictions parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont addicts à des choses qui ne sont pas conventionnelles. Comme là, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle un peu des mêmes sujets parce que, on va dire, dans l'intelligence commune, tout le monde a ces notions-là. Donc je parle beaucoup d'alcool, de drogue, etc. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas d'addiction qui sont pourtant bel et bien là. Il y a des gens qui ont des addictions, par exemple, au sexe, à la sexualité. Le fait de devoir regarder des films pornographiques tous les jours, le fait d'être extrêmement demandeur, d'avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire ou pas, d'ailleurs. Enfin, on en parle très peu parce que c'est assez tabou. La sexualité libère, évidemment, de la dopamine, de l'endorphine, enfin, la totale dans le cerveau, c'est un petit peu l'ébullition. Et je sais que beaucoup de personnes en souffrent. J'ai lu pas mal de choses à ce sujet-là. Donc les addictions, elles sont vraiment différentes en fonction des personnes et des sujets sur lesquels on peut se dire « mais non, mais ça c'est pas une addiction », peuvent en fait l'être réellement. Par exemple, quelqu'un qui va être obsédé par rapport à un changement physique, donc vous voyez en fait, on se moque souvent d'elles les pauvres, mais les stars de télé-réalité qui font chirurgie sur chirurgie, ça aussi c'est considéré comme une addiction parce qu'en fait ça devient vraiment un truc compulsif où elles peuvent pas s'en empêcher. Il y a vraiment de tout, je trouve ça fascinant à quel point le cerveau parfois est fucked up et ça a tellement une influence négative sur nos vies que ben, je trouve ça fou. Bon, est-ce que vous avez pris le temps, là, vous avez stoppé ce podcast, du coup, pour prendre 5 minutes et noter vos addictions, qu'elles soient d'ailleurs évidentes ou qu'elles ne le soient pas? Bon, j'espère que vous l'avez fait. Et ça se trouve, vous n'en avez pas du tout. Et dans ce cas-là, bah, franchement, vous avez vachement de chance parce que bah, c'est quand même un sacré handicap dans la vie d'avoir des addictions. Donc, c'est bien, tant mieux pour vous. Et maintenant qu'on a déterminé nos addictions, comment faire pour vivre avec? En essayant de faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible négatif sur nos vies. Et comment essayer de s'en débarrasser? Et je dis bien essayer parce que en aucun cas ici dans cet épisode, je vais essayer de vous faire une leçon de morale en mode il faut arrêter son addiction, il faut s'en débarrasser, il faut être une personne addiction free. Non, écoutez, franchement, la vérité, c'est que les addictions, c'est bien plus complexe qu'une simple mauvaise habitude. Ce n'est pas simplement une question de volonté. Et moi, si je vous parle de ça, c'est parce que je suis hyper fatiguée de voir les gens sur les réseaux sociaux faire des leçons de morale à des gens qu'ils ne connaissent pas en disant « Mais ouais, mais c'est facile en fait, par exemple, de perdre du poids, il suffit d'arrêter de manger des conneries. » Oui, ma grande, mais si le fait de manger des conneries est vécu comme une véritable addiction par la personne qui a de base des pathologies psychologiques et mentales compliquées ou qui vient d'avoir un choc émotionnel, peut-être qu'elle n'a pas forcément envie d'entendre qu'il faut se bouger le cul et arrêter de manger des conneries. C'est pas un choix. C'est un petit peu comme les phobies. Moi, je le vois de la même manière. Une phobie, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèquement ancré en ton âme, en qui tu es. Tu peux pas, du jour au lendemain, t'en débarrasser en disant « Ouais, c'est bon, j'arrête. » Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Comme je vous le disais aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques petites clés hein, pour essayer de se débarrasser d'une addiction. Mais bien sûr, je vous invite hein, clairement à aller consulter. Déjà, c'est pas pour rien qu'il existe aujourd'hui des addictologues et des médecins spécialisés justement dans le domaine des addictions. Donc si aujourd'hui vous ressentez le besoin, parce que c'est quelque chose qui vous pourrit la vie, alors là je vous parle pas juste d'une mauvaise habitude ou d'une petite addiction, je vous parle vraiment de quelque chose qui a des conséquences tellement négatives sur votre vie que ça vous empêche de vivre normalement. Les addictions doivent être traitées par des professionnels de santé, addictologues, ou alors directement avec des psychologues qui peuvent vous accompagner, soit par le biais d'une thérapie, soit par le biais de certaines séances pour vous aider à détecter quelles sont vos addictions, et surtout pour vous aider à en trouver l'origine. On revient sur ce que je disais, le savoir c'est le pouvoir, savoir d'où vient notre addiction peut nous aider à mieux la comprendre et justement l'éradiquer quand c'est possible. Ce qui m'a aidé personnellement à arrêter de fumer, c'est évidemment tous les aspects négatifs que ça avait sur ma vie. Hein. Donc j'avais pris du poids, je n'étais pas du tout en forme, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais les dents qui commençaient à jaunir, j'étais essoufflée lorsque je montais un étage des escaliers, ça aggravait mon acné, enfin bon bref. Mais au-delà de tous les aspects négatifs que ça avait, j'ai aussi au bout d'un moment vraiment réalisé le pourquoi du comment j'avais commencé à fumer. Et j'ai réalisé que c'était tellement basé sur rien, c'était tellement fondé sur du vent. En fait, c'était fondé sur une pression sociale et non pas sur un véritable besoin de ma part d'échapper à quelque chose. Je ne voulais pas cautionner le fait de faire les choses pour les gens, de faire les choses pour rentrer dans une case, pour faire plaisir à quelqu'un, pour coller à quelque chose que je n'étais pas. En faisant un petit peu le point, je me suis dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de cette cigarette? Est-ce que vraiment, Quand tu fais un tableau comparatif de ce que ça t'apporte de positif et de négatif, la cigarette coche plus de cases positives que négatives. La vérité, c'est que, bien évidemment, que non. Et donc, quand tu mets les choses côte à côte, tu te rends bien compte que, tout mis bout à bout, bah, ça vaut pas la peine. Et moi, ça a été un petit peu un déclic où je me suis dit, bah non, en fait, là, je suis en train de devenir esclave d'un truc qui date d'il y a des années, donc j'arrête. Et en fait, je fais partie de ces gens qui ont eu besoin d'avoir un déclic et une scission très claire et nette, puisque j'ai arrêté du jour au lendemain il y a 4 ans et je n'ai jamais repris la cigarette. Ça n'a pas été facile, hein. De toute façon, je vous avais fait une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder. J'ai eu de la chance de ne pas avoir eu besoin de consulter à cette occasion. Or, je sais qu'aujourd'hui, dans ma thérapie, il y a des addictions que j'ai et desquelles je discute avec ma psychologue parce que justement, je suis encore un peu en work in progress et que je cherche à comprendre d'où proviennent certaines de mes addictions dont je ne parlerai pas nécessairement non plus dans cet épisode. La première chose à faire, c'est de consulter, évidemment. Trouver la cause, ça évidemment, on en a déjà parlé, mais ça peut se faire à l'aide de quelqu'un ou parfois tout seul. Et la partie la plus difficile, finalement, ça va être toute la partie du sevrage. Et le sevrage, c'est vraiment, finalement, ce qui fait le plus peur, je dirais, aux addicts, c'est comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver ? Dans l'addiction, il y a aussi cette peur un peu du vide, vous voyez, de se dire, mais comment je vais faire sans ? Avec le sevrage, vient souvent des maux physiques et psychologiques parfois qui sont difficiles à gérer. Et je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes par rapport à ça. C'est que concrètement, quand vous arrêtez de donner ce petit plaisir à votre corps, le corps va forcément avoir une réaction négative à ça. Il va se dire, mais attends, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup, tu me donnes plus rien là ? Tu me donnes plus ma dose alors qu'en fait, c'est hyper important pour moi. Donc évidemment, il va réagir de manière négative. Un autre exemple, je suis addict au café. Et du coup, de manière très simple, quand je n'ai pas de dose de caféine quotidienne, j'ai des maux de tête extrêmement violents. Mais extrêmement violents au point où mes maux de tête ne se calment pas pendant 4 jours si je ne bois pas de café pendant 4 jours et je suis obligée de boire du café à la fin pour évincer mes maux de tête. Donc autant vous dire que là on est vraiment sur une addiction pure et dure, c'est que mon corps réagit très mal au sevrage de la caféine. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire que, évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a plein de symptômes, évidemment, je ne vais pas tous vous les citer. On n'est pas sur Doctissimo ici, surtout qu'en plus, tout le monde réagit différemment au sevrage. Moi, tout ce que je peux vous recommander, si vous n'êtes pas prêt, c'est vraiment de vous faire accompagner parce que le processus peut être extrêmement long et terrifiant et surtout traumatisant. Donc, ne restez pas seul. Dans ces cas-là, je vous mettrai des ressources dans les informations de cet épisode pour vous aider si jamais vous ne savez pas vraiment qui contacter. Le dernier point de ce podcast qui était important pour moi, c'était donc comment vivre avec nos addictions, parce que moi, il y a quelque chose qui me rend extrêmement triste dans tout ce processus, c'est le fait que j'ai beaucoup d'empathie et en fait, ça me fait vraiment de la peine de réaliser que les addictions, elles surviennent toujours chez les personnes qui sont déjà en détresse. Les choses négatives arrivent aux gens qui sont déjà dans la merde. Et c'est pas une généralité de dire ça, mais c'est, je trouve, assez vrai. En fait, les addictions, je les vois vraiment comme une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête et qui attendent en fait la moindre de nos faiblesses ou fragilités pour nous tomber dessus. C'est ça qui, je trouve, est extrêmement vicieux et évidemment très douloureux. Aujourd'hui, quand on a une addiction et qu'on sait d'où elle vient, on n'est juste pas encore prêt à l'arrêter ou en tout cas à entamer des démarches pour se sortir de cette addiction, il faut qu'on vive avec. Il y a différents cas de figure. Vous avez les personnes, en fait, qui vont dire « Bon, bah, de toute façon, voilà, je suis addict aux jeux vidéo, c'est comme ça, tant pis. J'ai pas nécessairement envie de me sortir de ça et de forcément faire des efforts, en fait, pour réussir à sortir la tête de l'eau, même si les gens de mon entourage me disent que j'ai changé ou que je suis désagréable parce que je préfère jouer aux jeux vidéo que de rester avec eux. » Pour ces personnes-là, on va dire que je pense que vous êtes encore dans une sorte de déni, et il n'y a pas de mal à ça, parce que chaque démarche en fait de ce type doit être faite en son âme et conscience. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à quelqu'un qui est addict « ouais, arrête ». Non. La démarche en fait pour arrêter quelque chose, pour arrêter une addiction, pour s'en défaire, elle doit être avant tout personnelle. De la même manière que j'en ai déjà parlé pour la thérapie, pour moi c'est exactement la même chose. Donc si aujourd'hui vous êtes, vous souffrez d'une addiction et que vous n'avez pas encore décidé de vous en sortir, en fait, n'attendez pas ni de cet épisode, ni de quelqu'un de votre entourage, qu'on le fasse à votre place. C'est vraiment une démarche qui doit être personnelle et qui doit venir de vous. En revanche, c'est vrai que quand on est conscient que l'on a une addiction, le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette information. Si on se sent prêt à, j'ai envie de dire, changer les choses, alors éventuellement, pourquoi ne pas envisager une diminution de votre addiction Et là, je parlais d'un truc, c'est vrai, dont j'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais par exemple, des substituts, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il existe aujourd'hui des substituts qui peuvent vous aider, notamment par exemple dans l'arrêt de la cigarette. Alors après, il y en a certaines qui marchent, certaines qui marchent pas. Là, vous avez envie de fumer une clope, peut-être, je sais pas, manger un chewing-gum à la place. Enfin, c'est vrai qu'on entend souvent en fait ces astuces-là, mais c'est vrai. Vivre avec une addiction et en avoir conscience, finalement, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de mettre en place des techniques pour les diminuer et peut-être un jour s'en débarrasser complètement. La deuxième chose qui a beaucoup d'importance pour moi, et ça je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai, mais je vais le refaire maintenant. Comme je le disais, il ne faut pas toujours se jeter la pierre et il faut vraiment prendre conscience d'où vient cette addiction. Et c'est pas parce que vous n'arrivez pas pour l'instant à diminuer ou arrêter que vous êtes une mauvaise personne, que vous n'avez pas de mental, que vous êtes faible. Parce qu'on a tous nos raisons qui font qu'on n'est pas capable d'arrêter, qu'on n'est pas capable de diminuer. Et le fait de s'auto-flageller ne va rien changer et ne va certainement pas vous aider à justement rentrer dans un processus de guérison. Je sais que souvent c'est encore pire parce que l'addiction elle peut survenir quand on est dans une période difficile et parce qu'on a peu d'estime de soi. Et le fait d'être addict et de ne pas réussir justement à passer au-delà de notre addiction, bah, ça renforce encore plus le fait qu'on se sent comme une merde. Et donc en soi c'est vraiment un cercle vicieux. La vie évolue, vous avez le temps en fait de changer, vous avez le temps d'avoir des déclics, vous avez le temps de voir les choses venir. Troisième chose, ne soyez pas toujours dans ce système de honte. Je sais que quand on est addict à quelque chose et que quelqu'un nous fait la réflexion, quelqu'un nous dit « Ah ouais, mais il faudrait que t'arrêtes de fumer. Ah ouais, mais t'es encore en train de picoler. Ah ouais, mais t'es encore à la salle de sport. » Il faut aussi faire comprendre aux gens de votre entourage que pour l'instant, vous avez conscience que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une addiction. Je pense que c'est important de le faire comprendre aux gens qui vous entourent parce que parfois, ça peut aussi, de leur côté, partir d'une bonne intention, en fait, de vous dire « Ah ouais, je trouve que tu bois beaucoup. » Fondamentalement, les gens qui vous disent ça ne le font pas pour vous emmerder. Ils le font parce qu'ils vous aiment et qu'ils voient bien que c'est un problème, en fait. Mais sauf que si vous êtes déjà au courant, dites-leur « Merci de te soucier de moi. Merci beaucoup. Écoute, voilà où j'en suis consciente. Pour l'instant, c'est pas possible. Je me sens pas encore capable. J'ai pas toutes les clés pour le faire, mais j'en suis consciente. Et si un jour je ressens le besoin d'avoir de l'aide pour justement entamer une démarche où j'arrête, je te le ferai savoir. » Je pense que parfois, à vouloir trop bien faire pour les gens de notre entourage, on les plonge encore plus dans l'addiction. On les fait culpabiliser tellement fort que bah, eux, déjà qui ont peut-être de base un terrain un peu fragile, vont encore plus se réfugier dans cette addiction. Il y a certaines personnes peut-être que vous aimez et à qui vous avez envie de dire « s'il te plaît, arrête de fumer », mais je pense que cette personne, elle est souvent consciente de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, les gens qui fument et qui savent pas que la cigarette, ça tue, c'est faux, tout le monde est au courant. Demandez-lui plutôt si il ou elle a besoin d'aide, et non pas « tu devrais arrêter de fumer ». Pour conclure, il n'y a pas une addiction moins gênante qu'une autre. On a parlé de quelques thématiques aujourd'hui dans cet épisode. Évidemment, il y en a bien d'autres, et je sais que c'est un sujet qui pourrait faire l'objet de différents épisodes, parce qu'il y a plein de choses à traiter à l'intérieur et plein de sous-sujets. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu un état des lieux parce que on a des addictions qui sont de plus en plus nouvelles, notamment l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux filtres sur les réseaux sociaux, l'addiction aussi au fait d'être liké sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a vraiment plein de sous-sujets et c'est hyper intéressant sociologiquement parlant, en tout cas. Encore une fois, pour moi, ce qui est primordial dans ces situations, c'est d'avoir déjà à minima une prise de conscience. C'est ce qui va vous faire avancer et c'est ce qui va vous aider justement peut-être à entamer des démarches pour arrêter. Reprenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand on a une addiction, n'hésitez pas à faire un tableau sur en quoi cette addiction m'apporte de la joie, du bonheur et en quoi au final elle a des aspects négatifs. Ça peut parfois visuellement nous aider à prendre conscience qu'il faut qu'on arrête. Faites-vous aider, encore une fois, et je vous donnerai des ressources pour le faire. Ne soyez pas dans le jugement de ceux qui en ont, vous ne connaissez rien d'eux et vous ne savez pas ce qui se passe dans leur tête, proposez-leur plutôt votre aide. J'espère avoir pu couvrir un max de choses. Encore une fois, vous savez, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis rien du tout, je suis juste quelqu'un de normal qui est en thérapie et qui réfléchit à plein de choses de la vie et qui a eu et a encore des addictions comme 99% des gens sur cette planète. Et je sais que c'est vraiment pas facile à vivre. Je sais aussi qu'on peut s'en sortir, parce que moi j'ai réussi. Et donc je suis sûre et certaine que beaucoup d'entre vous sont aussi capables de le faire. C'est pas forcément facile, mais c'est possible, gardez-le toujours en tête. Bref, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, c'était hyper intéressant pour moi de parler de ce sujet. J'avais un peu peur de le faire, mais je crois que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet épisode. À laisser évidemment 5 étoiles à cet épisode, le noter, laisser un petit commentaire, un petit mot, le partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. C'est comme ça que vous pouvez soutenir ces épisodes de podcast. Merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à les écouter. Ça me touche énormément de savoir que c'est voilà, un podcast qui fait maintenant partie de vos habitudes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ciao.